Vous écoutez
RMC.
Lundi 8 juin,
l'info sur RMC.
Il est 6h, Céline Kallmann est là pour vous, les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. À quand un retour à l'école comme avant? À 4 semaines du début des grandes vacances, les élèves n'ont repris que partiellement. Le conseil scientifique est favorable à des règles moins strictes, notamment pour les repas, les récréations et le sport. Quel dispositif pour remplacer le chômage partiel? Les partenaires sociaux débutent cette semaine des discussions avec le gouvernement. Objectif donc éviter les plans sociaux, maintenir le pouvoir d'achat des salariés. La police de Minneapolis démantelée, c'est l'info de la nuit aux États-Unis. 15 jours après la mort de George Floyd, la contestation contre les violences policières et le racisme s'est poursuivie tout le week-end partout dans le monde. Bienvenue à tous sur RMC. Il reste 4 semaines avant le début des grandes vacances, 4 semaines d'école, ou plutôt 8 jours seulement si vos enfants ont cours 2 jours par semaine. Les règles sanitaires très strictes depuis la semaine du 11 mai devraient être allégées. C'est ce que pense le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy. Il était hier soir sur BFM TV.
Il est assez raisonnable de se dire maintenant qu'avec les connaissances que nous avons, on pourrait peut-être alléger un peu, en particulier la vie périscolaire. On est là finalement dans quelque chose où on apprend en marchant, où les familles qui ont eu peur et qui étaient relativement réservées sur l'ouverture des écoles également, maintenant elles réclament dans une certaine mesure qu'on y ait un peu de souplesse. Et je crois qu'on pourrait mettre peut-être un peu de souplesse sur ces aspects périscolaires et peut-être même sur l'organisation des classes elles-mêmes.
Alors question, le gouvernement compte-t-il finalement changer les mesures drastiques mises en place? A priori, ce n'est pas pour demain, sachant qu'il reste 4 semaines donc avant les grandes vacances. Pierre-Yves Bonneau.
Nous espérons alléger le protocole sanitaire dans le courant du mois de juin. Propos de Jean-Michel Blanquer ce week-end. Le ministre de l'Éducation pressé de toutes parts pour assouplir des mesures anxiogènes pour les enfants. Selon une députée de la majorité, cette spécialiste des questions d'éducation propose notamment de rétablir de vraies récréations avec la possibilité de jouer au ballon dans la cour. Autre piste, lever ou augmenter la limite de 10 ou 15 élèves par classe, le plus vite possible mais pas tout de suite, selon le ministre qui a rappelé à l'ordre ce week-end les écoles privées sous contrat, elles avaient d'elles-mêmes décidé d'accueillir plus d'élèves en classe. De son côté, Matignon temporise et précise que la phase 3 du déconfinement dans les écoles prendra en compte l'évolution du contexte sanitaire. Rien ne devrait donc changer avant le 22 juin. Il ne restera alors que 2 semaines de cours avant les vacances d'été.
L'épidémie de Covid-19 continue de marquer le pas dans notre pays. 13 personnes sont décédées à l'hôpital. Plus faible bilan depuis mi-mars. Le nombre de personnes hospitalisées continue de reculer, tout comme ceux admis en réanimation. L'aéronautique, secteur comme celui de l'automobile, frappé de plein fouet par la crise. Le gouvernement doit annoncer demain un plan d'aide de l'ordre de 10 milliards d'euros. Chiffre révélé par le journal Les Échos, qui précise que le plan concerne des mesures en faveur de l'emploi et de l'obtention de crédits, mais aussi la création d'un fonds d'investissement pour consolider la filière, ainsi qu'un nouveau plan de soutien à l'innovation et à la recherche. Quelle aide plus générale pour les entreprises en difficulté? Le chômage partiel, qui concerne aujourd'hui plus de 13 millions de salariés, coûte trop cher aux caisses de l'État, 30 milliards d'euros. Début cette semaine, des discussions entre partenaires sociaux et gouvernement pour mettre au point le dispositif qui remplacera le chômage partiel le mois prochain. Victor Joannin.
Nom de code, ARM, le sigle d'activité réduite pour le maintien de l'emploi. Entreprises concernées par ce dispositif, toutes celles dont le retour à la normale sera lent et qui devront faire face pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, à un carnet de commandes sinistré, par exemple dans l'automobile ou l'aéronautique. Ces entreprises pourront réduire le temps de travail et donc les rémunérations de leurs salariés. Et pour ces derniers, l'État compensera une partie de la perte de pouvoir d'achat. Une partie seulement, à condition que l'entreprise s'engage à ne pas licencier. Un dispositif donnant-donnant qui a déjà été adopté au Parlement, mais dont les détails vont donc être discutés avec les partenaires sociaux qui sont plutôt favorables au principe. L'exécutif veut en tout cas aller très vite. La concertation doit aboutir dans une semaine.
RMC 6h04, la police de Minneapolis va être démantelée, annonce cette nuit des conseillers municipaux 2 semaines après la mort de George Floyd. Un nouveau modèle de sécurité publique va être mis en place. Le candidat démocrate à la présidence américaine, lui, va se rendre à Houston, Texas. Joe Biden va y rencontrer la famille de George Floyd, dont les funérailles vont se dérouler demain. 2 semaines après sa mort, les manifestations contre les violences policières et le racisme se sont poursuivies tout le week-end et ont gagné de nombreuses villes partout dans le monde. Margot Bédé.
sur le perron de l'hôtel de ville de Sydney en Australie, des dizaines de milliers de manifestants. Derrière le micro, Paul mène les chants protestataires.
La meilleure chose que nous puissions faire, c'est de s'unir, se retrouver tous ensemble et finalement se battre pour une chose aussi simple que les droits de l'homme.
Je ne peux pas respirer. De l'autre côté du globe, en Espagne, des milliers de personnes scandent cette phrase prononcée par George Floyd lors de son arrestation devant l'ambassade des États-Unis à Madrid. Alba, étudiante de 18 ans, a rejoint la manifestation.
Quand j'ai vu la vidéo du meurtre de George Floyd, j'ai ressenti beaucoup de peine. Je me suis dit, je dois faire quelque chose.
Image symbolique, ce dimanche à Bristol, au sud-ouest de l'Angleterre, la statue du négrier Edward Colston est arrachée de son piédestal. Galvanisée, les manifestants se ruent dessus, la piétinent et la roulent au sol. La statue de ce marchand d'esclaves du XVIIe siècle terminera finalement sa course au fond de la rivière Avon.
Et à Bruxelles, près de 10 000 personnes ont manifesté devant le palais de justice. Hier, des violences ont éclaté après le rassemblement. 150 personnes ont été arrêtées. Dans l'actualité également, hier soir, deux blessés par balle, dont un très sérieusement touché à Ajaccio. Un tireur est entré casqué peu après 22 heures dans une brasserie. Il a tiré à plusieurs reprises sur deux hommes qui étaient attablés. Une énorme surprise pour les fans de rugby et notamment du 15 de France, Jefferson Poirot, le pilier gauche des Bleus, annonce sa retraite internationale à seulement 27 ans. Le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles va désormais privilégier sa vie privée. Nicolas Paolarsi.
Oui, et pourtant, il y a 6 mois, à la sortie de la Coupe du Monde au Japon, Jefferson Poirot faisait partie des grands favoris pour récupérer le brassard de capitaine. Poirot, 36 sélections, arrête les Bleus. Il veut désormais être un papa à temps complet. Cette décision me permettra de ne plus avoir la sensation d'être à 50% sur tous les fronts et de me recentrer sur un objectif à 100%. Le capitaine de l'Union Bordeaux-Bègles veut également se recentrer sur son club sportivement. L'objectif qui m'obsède de plus en plus, c'est de gagner des titres en club, de passer un cap dans ma carrière de joueur. Pour l'équipe de France, un groupe extrêmement rajeuni depuis le dernier tournoi Destination, l'arrêt de Poirot d'un joueur d'une grande expérience internationale est un coup dur dont il va falloir se relever.
Nicolas Paolarsi, ça y est, je l'ai bien dit. C'était le premier week-end de déconfinement total sans restriction de kilomètres. Nous avons assisté aux retrouvailles de Marie-Claude et de sa famille qui a parcouru toute la France pour la revoir, de Béthune dans le Nord jusqu'à Marseille. Florian Chevalet.
Cela faisait 6 mois que François attendait de pouvoir embrasser sa maman.
Depuis Noël, on n'avait pas pu, ça fait plaisir.
Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, c'est au restaurant que Marie-Claude retrouve son fils, sa belle-fille et ses deux petits-enfants.
Vous n'êtes pas trop fatigué ?
Pas quand même. Il y a 1000 kilomètres. Si on a voyagé de nuit pour voir personne, on a évité les petites aires de repos. Oui. On n'a fait que les grandes. Pipi nature, quand on pouvait, au moins pas de risque.
Oui, ça me fait plaisir de les voir parce que je me dis que la vie file et que bientôt je ne les verrai plus.
Marie-Claude vit à Marseille, loin de ses enfants et petits-enfants qui vivent à Béthune, dans le Nord-Pas-de-Calais. Pour son fils François, la levée des 100 km marque aussi le retour au pays.
On ne savait pas quand est-ce qu'on allait pouvoir revoir notre ville. Et là, on est bien content.
Et le soleil, la mer, les petits-enfants, pas de cuisine à faire, tout était parfait.
Pour que le bonheur soit total, Marie-Claude attend maintenant sa fille. Elle arrivera demain de Valoris dans les Alpes-Maritimes.
Voilà, comme ça toute la famille sera réunie.
Sera réunie. Il est 6h08. Merci de réunir la famille, Céline Kalman. Il est 6h08. Merci, mais je sais. Merci, je dis ça comme ça. Je vous offre sur RMC et RMC Découverte, la chaîne 24, vous le savez. Je vous offre un an de course, 500 euros tous les mois pendant un an, ça fait 6000 euros. C'est pas compliqué, vous devez répondre à la question que je vous pose tous les matins jusqu'au 12. Nous sommes le 8 jusqu'à vendredi. Nous avons dû respecter, un, les gestes barrières ou deux, les gestes fourrières. Je sais pas qui a imaginé cette question, elle est pas mal, on va.
Moi j'ai ma petite idée.
Les gestes barrières et deux, les gestes fourrières. Bon, vous avez la bonne réponse, alors vous envoyez un pour geste barrière et deux pour geste fourrière par SMS au 732-16. Et parmi toutes les gagnantes et tous les gagnants, eh bien, tirage au sort. Vendredi, le gagnant ou la gagnante avec moi, vendredi matin, le 12 vendredi. Nous sommes le 8. Il est 6h09, le 8. Jetez des déchets sur la voie publique. Un masque, un mégot, des gants, je sais pas moi. Et d'autres déchets sera bientôt sanctionné d'une amende de 135 euros contre 68 actuellement. C'est un projet de décret, c'est ce qu'annonce le secrétariat d'État à la transition écologique, projet de décret qui sera présenté mi-juin. J'en parlerai à mon invité demain qui ne sera Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Demain matin, ne ratez pas, tout à l'heure Éric Ciotti. La mesure, cette amende de 135 €, bien accueillie, mais qui sera sans doute difficile à mettre en œuvre, le reportage de Rémy Inc.
Sur le constat, beaucoup de Français sont d'accord. Il faut durcir les sanctions.
Oui, c'est une bonne chose pour la planète, c'est important. Là, on voit de plus en plus des détritus dans la rue, notamment des masques.
Il y a des poubelles partout, donc c'est inadmissible de jeter n'importe où.
Mais en pratique, cette mesure semble difficile à mettre en œuvre.
Les amendes ne résolvent pas tout. C'est plus éduquer les gens que de les faire payer.
Il y a beaucoup de policiers dans la rue là qui sont là pour les prendre sur le fait.
Même constat pour Éric Le Dissès, maire sans étiquette de Marignane, dans les Bouches-du-Rhône. Difficile de s'appuyer uniquement sur les élus et leur police municipale.
Nous, déjà, les PV à 35 € pour les jets de mégots, déjà, c'est très difficile à réaliser. Hein. C'est pour la police municipale. Ils ont beaucoup de travail par ailleurs. Hein. Bien sûr, s'ils voient quelqu'un jeter un gant, ils vont aller dessus immédiatement. Il n'y a pas de problème, ça va être fait. Mais on ne peut pas dire qu'il y aura un effet dissuasif sur l'ensemble de la population. J'ai bien peur que ce ne soit qu'un effet d'annonce.
Un effet d'annonce et une mesure qui peut être dissuasive, mais mieux vaut attaquer le problème à la source pour Julie Sauvêtre de l'association environnementale Zéro Ouest France.
Ce genre de mesures purement de sanctions via des amendes, ça ne peut pas être suffisant. On attend un positionnement fort de la part du gouvernement, surtout pour lutter contre le recours massif aux protections jetables en plastique, comme les gants et les masques jetables qu'on a pu voir exploser.
Des associations qui demandent également une augmentation des effectifs de la police de l'environnement, qui sont en baisse depuis plusieurs années.
Il est 6h11, journée mondiale des océans. Aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'on retrouve bien souvent ces mégots, ces masques, ces gants dans les océans. C'est quoi la police de l'environnement, Quentin Vinet ?
Mais ce sont les agents que vous voyez quand vous vous baladez, par exemple, dans le parc des Calanques, à Marseille, que vous voyez en bateau quand vous allez à la mer, ou qui ont des jumelles. Vous savez, quand vous êtes à la montagne, ils n'ont pas de képi ou les tenues de la police nationale. D'ailleurs, il n'y a pas une, mais plusieurs police de l'environnement dans les réserves naturelles, dans les parcs marins, à l'office des forêts. Il y en aurait une vingtaine en tout, et un rapport gouvernemental reconnaît que c'est assez dur en fait de savoir combien d'agents sont sur le terrain. On sait par exemple qu'il y a 1800 inspecteurs de l'environnement à l'Office français de la biodiversité. Ce sont eux qui luttent contre le braconnage ou le trafic des espèces sauvages. À la police de l'eau, il y a environ 1000 agents qui consacrent 20% de leur temps au contrôle. D'une manière générale, toutes ces polices ont le droit de vous verbaliser si vous laissez par exemple vos restes de pique-nique par terre dans la nature. Le problème, c'est que les effectifs sont en baisse. On parle d'une baisse de 14% depuis 2012 à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Quasiment 20% dans le parc des Écrins, un des 11 espaces naturels protégés du pays.
Bien, j'en parlerai à Christophe Castaner demain, parce que c'est très 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 intéressant, évidemment. Ça vous fait réagir, 3216rmc.fr. Vous n'hésitez pas, ces déchets, les ordures aussi, vous savez, les déchets de bâtiments, tout ce qui est déchets.
Les décharges sauvages.
Les décharges sauvages, tout ce qui est déchets laissés dans la nature, désormais, bientôt, le décret n'est pas paru, mais va paraître, 135 €. Bien, il est quelle heure? Il est 6h12. Si je prenais Philippe, rapidement, qui est un auditeur fidèle, habitué, Philippe, qui est à Chevroux, dans l'Ain, chef de cuisine, au collège. Bonjour Philippe.
Bonjour Jean-Jacques.
Ça va mon cher Philippe, ce matin?
Impeccable.
Bon, bon. Alors, est-ce qu'il faut accélérer le retour à l'école des collégiens, par exemple?
Déjà, il faudrait bien que tous les établissements soient ouverts pour accueillir les enfants. Ce n'est pas le cas encore actuellement.
Oui.
Accélérer pour quoi 15 jours d'école qui restent, parce que cette semaine, on peut déjà considérer qu'il y a des foutus. Moi, je pense que on peut accélérer, mais il faut quand même maintenir un certain niveau de distanciation.
Oui.
Et puis qu'on redémarre à plein boom au mois de septembre avec tous les établissements ouverts à 100% et dans leur capacité de fonctionnement.
Bon, d'accord. Ça se passe bien chez vous? Vous m'aviez dit l'autre jour que...
Oui, parce que bon, on a mis ce qu'il fallait en place.
Voilà.
Ça marche pas trop mal. Les gamins sont assez à l'écoute.
Chaque fois, je le dis. Ça ne me surprend absolument pas. Les collégiens...
Par contre, il y a un autre truc à relever quand même. C'est quand nos responsables d'établissement sollicitent par les parents par sondage pour savoir s'ils vont mettre leur enfant à l'école, vous n'avez pas 50% des parents qui répondent.
Ah bon, les parents ne répondent même pas, oui, ça évidemment.
Alors comment vous voulez, après on va critiquer l'école qui n'accueille pas des gamins, mais les parents ne répondent déjà même pas.
Non, mais alors Philippe, vous avez tellement raison. Merci Philippe, 6h14.
Bonne pétanque Jean-Jacques, maintenant vous allez avoir le temps.
Comment?
Vous allez avoir le temps maintenant, bonne pétanque, si j'ai bruit.
De jouer à la pétanque, oui, enfin...
Ah oui, vous allez faire toute l'émission politique de 8h30
à 8h30, l'invité politique tous les matins, 8h30 et 9h.
Oui, mais après, à partir de la rentrée, vous travaillez que de 8h30 à 9h, c'est ça?
Bon, mais on précisera les choses dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent, Philippe. Écoutez bien, RMC. Merci, merci. Bah oui, alors vous êtes un fidèle parmi les fidèles. Bah ça, ouais. J'aime cette fidélité. Merci, qui n'est pas toujours récompensée, la fidélité, mais c'est la vie. Il est 6h14, vous êtes sur RMC. Allez, 6h14. Ce que nous allons faire, nous allons faire un peu de pub. Pourquoi un peu de pub? Parce que dans un instant, nous allons parler des camping-cars, les camping-caristes en plein boom, le camping-car en France. À tout de suite, 6h15.
RMC, boom en direct.
Oui, oui, et trois fois oui à un gros PV, une grosse amende pour avoir jeté son masque par terre, dit Sony. Il est même favorable à des stages, 2 heures par semaine pour ramasser les mégots des autres, etc. Les Français ne sont que des gros crados, nous écrit Sony. Eric dit, le problème c'est que c'est impossible de verbaliser, on l'a vu avec Quentin, par manque de policiers, c'est évident. On leur demande de plus en plus de choses et ils sont de moins en moins nombreux. Alors pour Jean-Pierre, dit, le seul moyen de faire comprendre à ses porcs l'importance de jeter les détritus dans une poubelle, c'est de leur mettre le nez dedans. Là aussi, stage de 3 mois dans un centre de tri de déchets ménagers, et peut-être que ça les aiderait à comprendre. Il faut éduquer nos futures générations. Moi, je le fais avec ma fille et ça marche très bien. Patrick nous dit, moi, ce qui me révolte, ce sont les gens qui jettent leur emballage de McDo sur les routes. On devrait verbaliser McDo et peut-être qu'ils trouveraient la solution pour s'occuper de leurs clients. Et puis Obi-Wan nous dit, n'oubliez pas non plus les déjections des animaux. Si vous aussi, vous constatez ces incivilités, témoignez ce matin 32-16 et le Facebook Bourdin Direct.
RMC au 32-16,
45 centimes la minute.
RMC, 6h-9h.
Bourdin Direct.
Il est 6h19, merci d'être avec nous. Si nous parlions du camping-car, il y a eu un boom du camping-car. Gérard Coutet, bonjour.
Oui, bonjour Jean-Jacques.
Oui, merci Gérard, vous êtes président de la Fédération Française des Campeurs Caravaniers et Camping-Caristes, vous-même camping-cariste, mobilité, flexibilité. Évidemment, le camping-car répond aux attentes des Français actuellement. Alors, je voudrais commencer. Est-ce que je peux, par exemple, louer un camping-car?
Oui, bien sûr. Il y a plusieurs choix pour faire une location de camping-car. Oui. Vous avez tout d'abord les loueurs traditionnels. Il y en a deux principalement qui ont une section camping-car. C'est Avis Caraway, oui, et Hertz Trois Soleils.
Bah. Alors, bah, combien ça coûte? Alors, je peux louer avec Hertz et Avis, mais je peux louer aussi avec les concessionnaires de camping-car qui vendent,
absolument,
ces camping-cars, hein?
Absolument, c'est ce que j'ai à vous dire. Un autre circuit, c'est les concessionnaires de camping-cars qui vendent, oui, des camping-cars, mais qui, la plupart, ont une section location de camping-cars.
Voilà.
Et puis, aussi... l'autre possibilité, c'est la location de particulier à particulier.
D'accord.
Ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau. Hein. Il y a deux principaux acteurs sur ce sujet. C'est Yescapa et Wikicamper,
bon,
qui mettent en relation les particuliers qui, voilà, veulent louer leur véhicule.
Bah, combien ça coûte louer un camping-car pour une semaine?
Alors, louer un camping-car pour une semaine, bon, les prix sont bien sûr variables en fonction de la saison,
oui,
en fonction du type de véhicule.
Mais oui,
il faut compter chez un loueur en juillet-août environ 1150 euros pour un camping-car pour une semaine. Et chez un particulier, entre 850 et 900 euros.
D'accord, d'accord. Bon, pour 4 personnes, hein?
Oui, pour 4 personnes.
Bon, pour 4 personnes. Est-ce qu'il y a une forte augmentation du nombre de réservations cette année, Gérard Coutet?
Ah oui, oui, il y a une très forte augmentation des réservations. Et il y a aussi une très forte augmentation des ventes chez les concessionnaires, principalement de leur parc de véhicules d'occasion, hein, puisque la période que nous venons de traverser a conduit à ce que les usines de production de camping-cars étaient fermées. Bon, depuis le 11 mai, elles sont réouvertes et elles commencent à rattraper le retard, mais il y a de nouveaux, oui, adeptes, et nous, on le voit bien, notre fédération, on a de plus en plus d'appels de gens qui veulent se renseigner pour se mettre à faire du camping-car, et c'est complètement notre rôle, hein, de les renseigner et de prendre en charge leur défense auprès des pouvoirs publics, des constructeurs, des distributeurs de véhicules, des municipalités et des gestionnaires de terrain. et ça vient de plus en plus, ils nous questionnent pour devenir adhérents à notre fédération, pour les représenter de plus en plus. D'autant que pour les nouveaux adeptes au camping-car, nous proposons des stages de formation à la conduite du camping-car, parce que un camping-car se conduit avec un permis B, c'est vrai. Mais du fait des dimensions du véhicule, il y a quand même quelques dispositions particulières à prendre. Et ça, en parallèle avec l'école de conduite française, nous organisons des stages de formation.
Bien sûr. Alors, un camping-car neuf, ça coûte au départ neuf, 45 000 euros. Et ça peut aller jusqu'à 500 000 euros.
On peut trouver un camping-car neuf à partir de 40 000 euros, le modèle de base. Et puis, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Vous avez des véhicules avec des slide-out, vous avez des véhicules avec garage. Mais disons que c'est quand même l'exception, le véhicule à 500 000 euros. Le gros du marché se trouve quand même dans des véhicules à 55 000 euros.
Mais dites-moi, Gérard Coutet, finalement, le camping-car est en train de prendre le pas sur la caravane.
C'est pas du tout la même utilisation.
Est-ce que ce ne sont pas les mêmes vacances?
Alors, vous savez, moi, je ne suis pas pour défendre, faire la promotion plus de l'un que l'autre. Nous représentons dans notre fédération la fois les caravaniers et les camping-caristes. Simplement que chacun choisit son mode d'hébergement en fonction de son type de vacances. L'avantage du camping-car, c'est qu'il peut être utilisé du 1er janvier au 31 décembre. La caravane, elle, doit obligatoirement être stationnée sur un terrain de camping. Elle est donc tributaire des dates d'ouverture des terrains de camping. Un petit peu la grosse différence entre les deux véhicules.
Bon. Vous-même, je crois que vous faites Paris-Pékin tous les deux ans, en camping-car.
Oui, notre fédération organise Paris-Pékin-Istanbul tous les deux ans. Il devait partir il y a trois jours, à peu près, de Paris, pour le périple de 2020. Mais pour des raisons bien évidentes que je ne vous expliquerai pas, nous avons été obligés de le reporter à 2021.
Bon, Gérard Coutet, merci. Vous êtes adepte du camping-car, dites-nous. Est-ce que j'ai une dernière question, Gérard Coutet? On pense toujours que le camping-car, c'est réservé à des retraités qui ont du temps et qui peuvent. Mais c'est de moins en moins vrai, non?
Oui, c'est de moins en moins vrai parce que il y a de plus en plus de familles qui s'intéressent au camping-car. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que avec les possibilités de location de particulier en particulier, ça permet de rentabiliser son achat.
Bien sûr. Merci Gérard Coutet. Tiens, encore une question. Est-ce qu'il y a des camping-cars électriques?
Alors, il n'y a pas de camping-car électrique. Et je vais vous dire, ça va être un peu compliqué parce que la limite pour avoir un camping-car conduit avec un permis B, c'est 3,5 tonnes. Et un camping-car électrique va avoir des batteries qui vont nécessairement lui faire dépasser les 3,5 tonnes.
J'ai compris. Merci Gérard Coutet. Merci beaucoup. Il est 6h25. Vous êtes sur RMC. Tiens, les vacances, Quentin.
Beaucoup de Français vont choisir à la dernière minute cette année leurs vacances. 4 automobilistes sur 10 vont attendre en fait le dernier moment pour réserver leurs vacances. On verra en fait où on va en sortant du garage. C'est ce que nous dit une étude des badges de télépéage Bipengo, une façon de s'adapter à la crise parce qu'il y a beaucoup d'interrogations encore. On ne sait pas où on ira, mais on sait qu'on ira en voiture. Les vacances en voiture pour la très grande majorité des Français. Et ce seront les vacances françaises, nous dit cette étude, pour 8 Français sur 10.
8 Français sur 10 resteront en France. Il y aura du monde, un peu partout. Tant mieux. Tous les matins, trois histoires, trois images avec Charles Magnin. Nous commençons avec les images fortes, Charles, des manifestations à travers le monde entier ce week-end.
Oui, des rassemblements contre le racisme, les violences policières, un peu partout en Europe. On peut citer Londres, Madrid, Francfort, Rome, Copenhague, Budapest, Stockholm, mais aussi Sydney, Brasilia, Tunis, avec toujours les mêmes slogans, Black Lives Matter, des genoux à terre, de longues minutes de silence en hommage à George Floyd. Une scène marquante, symbolique, a eu lieu hier à Bristol en Angleterre. Une statue du négrier Edward Colston a été déboulonnée, piétinée, jetée à l'eau par des manifestants. Et puis à Londres, c'est une statue de Winston Churchill qui a été taguée. était un raciste, peut-on lire sous la statue de l'ancien Premier ministre britannique. Et puis à l'inverse, j'ai une scène beaucoup plus sympa. À Atlanta, aux États-Unis, vendredi soir, les forces de l'ordre se sont lancées dans une chorégraphie endiablée pour annoncer le couvre-feu. Vous avez évidemment reconnu la Macarena, Jean-Jacques, parfaitement exécutée par la garde nationale de Géorgie à Atlanta. La garde nationale
Ils sont très bons.
Ça se passe très bien avec les manifestants, chorégraphie tous ensemble. Résultat, 15 minutes plus tard, tout le monde s'est dispersé dans le calme afin de respecter le couvre-feu.
Oui, et si nous dansions pour calmer tout le monde.
En tout cas, la Macarena,
manifestants et policiers, non, voilà,
apaise tout le monde.
Allez-y. Hein. Est-ce que ces images vous choquent? Parce que je suis persuadé qu'elles choquent certaines personnes. Est-ce que ces images vous enchantent? Vous me dites. 3216rmc.fr. En Espagne, des étudiants Erasmus forcés de nettoyer une plage après une fête illégale.
Mais oui, les rassemblements de plus de 15 personnes sont toujours interdits en Espagne. Interdiction bravée sur une plage de Galice par des dizaines d'étudiants Erasmus. Des Brésiliens, des Argentins, des Français évidemment, toujours des Français dans les bons coups. Ils ne se connaissaient pas, mais se sont passés le mot sur les réseaux sociaux pour se rassembler et faire la fête jeudi dernier sur une plage. Rapidement alerté, la police arrive sur place, mais ne verbalise pas, n'embarque pas les jeunes fêtards. Non, les policiers leur demandent de rester sur place, de ramasser tous leurs déchets. 38 jeunes gens ont donc passé quelques heures à collecter leurs bouteilles et leurs mégots, de quoi leur faire passer le goût de la fête illégale.
Enfin, en France, le confinement a fait exploser les ventes de poules pondeuses.
Oui, vous les entendez, elles sont au plateau.
Elles
ce
sont
matin.
Là.
Un œuf frais tous les matins au petit-déj, ça fait rêver. Eh bien, les animaleries, les éleveurs croulent sous la demande. Pendant le confinement, beaucoup de Français ont pris soin de leur potager, mais aussi décidé d'accueillir des poules dans leur jardin. C'est ludique pour les enfants, c'est écologique et très économique. Une poule pondeuse s'achète environ 11 euros et va pondre 300 œufs par an. Le calcul est vite fait, la poule est très rentable.
Ben, on verra au bout d'un moment.
Oui, si on les retrouve,
on verra au bout d'un moment.
Etc.
On en reparlera. Il est 6h29. Merci, la machine à café. Qu'est-ce que vous voulez dire, Quentin? Oui, là, oui, c'est vrai, la machine à café. 32-16, la touche 5, Quentin.
Et le mot matin par SMS au 7-32-16.
Voilà. Il est quelle heure? Presque la demi. Mathieu, qu'allons-nous faire?
Alors, au petit déjeuner, des œufs, pourquoi pas. On va reparler du petit déjeuner avec Anne-Sophie Balbir dans le journal. Au petit déjeuner, des fruits aussi. Souvent quelques poignées, mais parfois jusqu'à 200 kilos. Écoutez bien, ce producteur de cerises, d'abricots, de pommes, de pêches, on a ras-le-bol de se faire voler ses fruits. Oui. Il a décidé de filmer ses voleurs. C'est un auditeur RMC, Aurélien Esprit, avec nous, juste après le journal de 6h30.
Filmé et diffusé sur Facebook.
En live.
En live. Il est 6h30 et Anne-Sophie Balbir est là pour les dernières informations. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Le gouvernement veut se saisir du mouvement de colère contre les violences policières. Les consultations s'enchaînent, les manifestations aussi, en France et partout en Europe, avec parfois leur lot d'injures. C'est ce que dénoncent ce matin des proches des forces de l'ordre. 13 morts de plus en 24 heures, plus faible bilan de l'épidémie de coronavirus depuis la mi-mars. Le président du conseil scientifique demande d'alléger le protocole sanitaire dans les écoles. Et puis, il y a eu les mauvais côtés du confinement, mais il y a aussi eu les bons côtés du confinement. Un Français sur deux a plus et mieux mangé au petit déjeuner. Résultat d'une étude que nous vous dévoilons ce matin, RMC 6h31. Des propositions pour répondre aux revendications exprimées dans les manifestations antiracistes et anti-violences policières. C'est ce que demande Emmanuel Macron à son gouvernement alors que les manifestations se multiplient. 23 000 personnes ont défilé samedi en France avec parfois dans les cortèges des slogans comme « Tout le monde déteste la police »,« Police partout, justice nulle part ». Ce matin, les proches des forces de l'ordre répliquent. Gladys Laffitte.
Le conjoint de Perrine Salé est policier et depuis une semaine, il est constamment invectivé par la population lorsqu'il est en tenue. Dernier exemple, samedi, lors d'une manifestation contre le racisme, Perrine Salé est porte-parole des femmes des forces de l'ordre en colère.
Mon compagnon qui était sur la manifestation et qui l'encadrait s'était pris énormément d'injures. Vous êtes des assassins, vous tuez nos enfants, vous êtes racistes, ça fait excessivement mal. Et là, on a l'impression que le dialogue est complètement rompu. On a ce sentiment d'abandon de la part de la société.
Abandon de la part du ministre de l'Intérieur aussi. Vendredi, Christophe Castaner a saisi le parquet de Paris après la révélation de messages racistes écrits par des policiers dans un groupe Facebook.
Il y a ce discours politique qui vise à l'apaisement. On a l'impression aussi que c'est une condamnation d'emblée. Par contre, j'ai toujours pas vu de saisie de la part du ministre de l'Intérieur pour des injures raciales qui sont proférées à l'encontre de fonctionnaires de police.
Perrine Salé espère maintenant une chose.
Une issue à ce dialogue, pour montrer que la police, elle est multicolore et elle porte les valeurs de la République française.
Un appel à dépassionner le débat, dit-elle, pour renouer le dialogue entre forces de l'ordre et citoyens.
Aux États-Unis, la police de Minneapolis va être démantelée. Les autorités disent vouloir reconstruire un nouveau modèle de sécurité publique qui assure vraiment la sûreté de la population. 13 morts de plus en 24 heures dans les hôpitaux. Dernier bilan du coronavirus en France, le plus faible depuis la mi-mars, juste avant le confinement. L'épidémie est en grande partie contrôlée. D'ailleurs, Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, plaide pour un allègement des règles sanitaires dans les écoles d'ici la fin du mois, notamment pour les repas, les récréations ou le sport. Et il n'est pas le seul, Nicolas Ropert.
Professeur de PS dans la Manche, Fanny Le Cam retrouve aujourd'hui pour la première fois ses élèves avec un programme très restreint.
On a pu mettre en place des activités telles que la course d'orientation. Et puis, effectivement, on va pouvoir travailler sur tout ce qui est renforcement musculaire en musique.
Des activités sportives qui ne nécessitent pas de contact entre les élèves, mais l'enseignante plaide pour un allègement des mesures sanitaires.
Si effectivement on peut faire un petit peu plus de sport collectif, du football à l'extérieur, de handball également, du basket, ce serait vraiment bienvenu parce que les élèves apprécient être au sein d'une équipe, tout simplement le vivre ensemble.
Cet assouplissement ne permettrait pas d'accueillir plus d'élèves, estime Philippe Vincent, secrétaire général du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale.
Comme l'essentiel de la difficulté tient au groupe limité à 15 et aux 4 mètres carrés dans les espaces salles de classe, c'est vraiment ce problème-là qui doit être traité un jour ou l'autre si on estime que c'est nécessaire.
Pour lui, il est encore temps de changer ses règles d'ici la fin de l'année scolaire.
Ce sera désormais 135 euros d'amende si vous jetez votre masque par terre. C'est 68 euros actuellement, mais le gouvernement veut durcir les sanctions. Un décret est en préparation, le texte devrait être présenté au milieu du mois. Plus de 8 milliards d'euros pour soutenir le secteur de l'automobile. Le président l'avait annoncé fin mai pour faire face à la crise du coronavirus. Alors, combien ce sera pour l'aéronautique, autre secteur durement touché? Benoît Ballet, l'exécutif, devrait dévoiler demain un dispositif d'aide de plusieurs milliards d'euros.
Oui, une batterie de mesures en faveur de l'emploi et des crédits aux entreprises du secteur pour un plan qui pourrait atteindre 10 milliards d'euros. C'est le chiffre avancé par nos confrères des Échos. Sans que tous les détails soient connus pour l'instant, on sait que figurera dans ce plan la création d'un fonds d'investissement dédié à la consolidation de la filière, un fonds de l'ordre d'un milliard d'euros qui permettra aux entreprises françaises en difficulté de se protéger d'offres de rachat venant de l'étranger. Un plan donnant, comme pour le secteur de l'automobile, le gouvernement avance déjà des conditions. Il faudra que ces investissements soient assortis de garanties pour l'emploi. Nous allons demander de la visibilité à l'industrie aéronautique pour que cette nécessaire transformation permette de localiser ou pérenniser des emplois en France. Des mots du secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebari.
Benoît Ballet en direct pour RMC. Merci. Dans l'actualité également, opération démontage de l'échafaudage de la flèche de Notre-Dame de Paris. La dernière phase est lancée aujourd'hui et va durer tout l'été. 6h36 sur RMC, peut-être le moment pour vous de nous écouter en dégustant votre tartine de confiture avec café, thé ou jus d'orange. C'est l'un des effets positifs du confinement. Un Français sur deux dit avoir pris des petits déjeuners plus complets et plus équilibrés ces derniers mois. Résultat d'une étude Opinionway pour Lactel que nous vous dévoilons ce matin. Des aliments plus variés, plus de moments partagés en famille. À Paris, le reportage de Mao Bécard-Granier.
Ça c'est sûr, pendant le confinement, Aya, 6 ans, a passé beaucoup plus de temps à manger ses tartines et ses céréales le matin.
Avant le confinement, on se dépêchait pour après faire les activités et là, on mange un petit peu doucement.
La maman d'Aya, Selma, confirme les petits déjeuners ont été plus fastueux mais aussi de meilleure qualité.
Moins d'aliments transformés, j'ai l'impression. On ouvrait moins de boîtes aussi, beaucoup plus qualitatif et plus sain. Mais bon, après, comme on prend le temps de manger, on mangeait peut-être un peu plus que d'habitude.
Et si les parents veulent que leurs enfants continuent d'accorder de l'importance au premier repas de la journée, il va falloir faire quelques sacrifices pour que ces bonnes habitudes restent. Albert Moukébert est docteur en neurosciences.
Essayer de mettre en place des choses qui nous permettent de prendre ce temps le matin. Par exemple, reprendre le boulot un peu plus tard. On essaye de trouver une sorte de modèle intermédiaire entre ce qu'on faisait avant et qui était pas très bon pour les petits déjeuners, par exemple, des enfants, et ce qu'on a fait pendant le confinement, qui était une extrême qu'on peut pas tenir dans la durée, et voir si on peut trouver quelque chose qui entre les deux.
Pendant le confinement, un enfant sur deux a pris plus souvent que d'habitude son petit déjeuner.
Les courses, Mathieu, c'est à quand ?
Avec le pronostic de la Dream Team des courses RMC, favori numéro 9, Valzer di Poggio, outsider numéro 14, Vastas Fontmille, le 9 et le 14.
Il est 6h37, Aurélien est avec nous. Aurélien est un auditeur d'RMC, producteur de cerises, d'abricots, de pommes et de pêche à Pont de l'Isère. C'est dans la Drôme. Aurélien, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques.
Ça va Aurélien ce matin ?
Bah écoutez, ça va, il fait beau.
Il fait beau, bon. Depuis plusieurs années, vos fruits sont volés. Et vous en avez assez. Alors vos fruits, bah, ce sont les cerises qu'on vient ramasser, les abricots, les pommes ou les pêches. Samedi, vous en avez eu assez et vous avez filmé ce qui s'est passé. Alors que s'est-il passé samedi, Aurélien ?
Eh ben que s'est-il passé samedi? J'étais au bord de la route en train de vendre justement un plateau de cerises et puis j'ai vu deux cyclistes passer, le grand sourire qui m'ont salué. Puis je sais pas pourquoi, j'ai regardé dans l'avant du vélo et j'ai vu un panier rempli de cerises. Voilà, avec des branches, des feuilles, enfin il y avait tout quoi. Et puis sur le coup ça m'a fait tilt. Je me suis dit tiens, on dirait tes cerises. Et puis deux minutes après j'ai un collègue qui passait justement dans mes champs, juste qui était à 100 mètres avant. Et qui me dit, Aurélien, je viens de trouver deux personnes dans tes champs en train de remplir des sacs et d'arracher des branches. Et je les ai sorties, quoi. Donc, tout de suite, quand il m'a dit ça, je me suis dit, attends, qu'est-ce que tu vas faire, encore une fois ? Donc, je me suis dit, bah, tiens, on va les suivre et on va les mettre devant leur fête accomplie. Et on va filmer ça et on va rendre ça public. Voilà, donc du coup, j'ai décidé de faire un live Facebook. Et de pousser ces personnes dans leur retranchement. Et c'est ce qu'elles ont fait, puisqu'elles ont avoué hein, qu'elles avaient bien pris ces cerises. Et puis voilà, elles se sont même excusées publiquement sur les réseaux.
J'espère qu'elles les ont payées.
Alors, elles n'ont pas payé parce que j'ai déjà récupéré mes cerises. Bon. Et puis voilà, je voulais surtout que ça soit symbolique et leur faire peur.
Ben évidemment, Aurélien, oui, il n'est pas là. Vous n'êtes pas policier, hein. Vous faites ça parce que quand on travaille, on vend ses produits, on n'a pas envie du tout que quelqu'un passe comme ça, arrache, en plus, les arracher, arrache des branches.
Mais c'est bien là, il est bien là le problème, Jean-Jacques. Je suis jeune agriculteur depuis plusieurs années. J'ai jamais empêché qui que ce soit, quand il se promène le dimanche, de venir prendre une pomme, de venir manger une cerise. Je sais ce que c'est, ce bonheur, ce plaisir de pouvoir manger soi-même un fruit sur l'arbre. Mais venir là complètement avec des sacs et délibérément arracher des fruits et en plus pénaliser la production de l'année prochaine s'il m'arrache des branches, ça c'est juste inadmissible et intolérable. Voilà, c'est un petit peu comme si aujourd'hui j'allais dans une grande surface, je remplissais mon caddie, je passais pas par la caisse, je passais directement par la sortie, voilà.
Mais, deux personnes de 70 ans à peu près, hein, tranquille, un couple. Vous avez diffusé le film sur Facebook, en Facebook Live, et en quelques heures, la vidéo a été vue plus de 35 000 fois. Hein, la récolte
55 000 ce matin.
55 000 ce matin et ça va s'accélérer là. Je peux vous le dire. Hein. Je peux vous le dire, Aurélien. Ben évidemment. C'est l'exemple. Hein. Vous vouliez que ça serve d'exemple. C'est bien ça, Aurélien.
Exactement. Je me suis dit voilà, on se bat tous les jours contre les aléas climatiques. Vous savez bien, hein, contre la grêle, contre le gel, contre la sécheresse. On n'a pas besoin de ces choses-là, quoi. Voilà.
Oui, bien sûr.
Et du coup, je me suis dit, ben peut-être en faisant ça, ça va faire bouger les choses. Et certaines personnes qui ont regardé la vidéo, qui ont peut-être un jour été confrontées à ce genre de problème, ben, peut-être ça va les sensibiliser.
Bien, merci beaucoup Aurélien. Vous vendez en direct, hein, aussi auprès de grossistes, je crois.
Cerises,
vos abricots, vos pommes. Les abricots, c'est pas terrible cette année parce qu'il y a une gelée. En revanche, belle récolte de cerises, c'est bien parti pour les pommes. Merci mon cher Aurélien. Merci.
Avec plaisir, à bientôt Jean-Jacques.
Belle journée Aurélien, merci. 6h42, un peu de pub. Et on se retrouve, on va parler de toute autre chose, avec notre invité Jean-Luc Duménil, secrétaire général de la CPME. Nous allons parler des petites et moyennes entreprises, donc la CPME qui présente un plan de relance. À tout de suite.
RMC.
RMC, 6h-9h,
Bourdin Direct. Nouvelle invitée ce matin sur RMC et RMC Découverte, la chaîne 24. Jean-Yves Duménil, secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Bonjour.
Bonjour.
Vous en parlez des PME, des TPE, des PME. Jean-Yves Duménil, vous présentez votre plan de relance pour les aider. Alors d'abord, toutes les relances concernant les particuliers, par exemple, créer un chèque vacances abondé par l'État qui permettrait aux particuliers d'utiliser ce chèque vacances pour cet été et pour l'automne, pourquoi pas, dans les entreprises des secteurs les plus touchés.
Alors, par exemple, la crise. Effectivement, une des mesures qu'on propose, l'idée, elle est relativement simple, c'est qu'il y a de l'épargne disponible, les Français ont de l'argent. Pendant la période de confinement, pour mémoire, ils ont économisé plus de 55 milliards d'euros, ce qui est beaucoup d'argent. Oui. Et donc aujourd'hui, il faut inciter les gens à consommer.
À débloquer cet argent.
Exactement.
Et à utiliser cet argent pour consommer.
Alors ce chèque vacances dont vous parliez, l'idée, oui, c'est de dire que cette année en France, les Français probablement prendront davantage leurs vacances sur le territoire national.
Oui.
Et il
8
faut
sur 10.
Les inciter, les accompagner pour dépenser cet argent dans les secteurs qui ont été davantage sinistrés pendant la période récente. C'est quoi ? C'est le tourisme, c'est la culture, c'est le sport, c'est l'événementiel. Donc on aurait un chèque vacances qui permettrait, qui serait abondé par l'État et qui inciterait les gens effectivement à dépenser davantage dans ces secteurs.
Dépenser.
Pendant la période de l'été. Ce qui est important, c'est que ces mesures, elles soient ponctuelles de façon à ce que c'est un effet choc pour relancer la dynamique et faire repartir l'économie. C'est ça dont on a besoin dans
l'immédiat. Alors, pour inciter les Français à consommer, vous dites que les salariés puissent débloquer leur épargne salariale sans avoir à justifier d'aucun motif.
Bien sûr. Aujourd'hui, quand vous avez de l'épargne salariale, c'est quoi ? C'est l'intéressement, c'est la participation. Et ces sommes-là, elles doivent rester bloquées pendant une période à l'intérieur de l'entreprise, sauf cas de force majeure. Par exemple, si vous perdez votre emploi, s'il y a un décès, si
oui,
voilà. Bon,
oui,
nous, tout simplement, ce qu'on dit, c'est la période actuelle étant exceptionnelle, laissons la possibilité aux Français, s'ils le souhaitent, d'utiliser cet argent comme ils l'entendent pendant les quelques mois qui viennent. Ça a déjà été fait par le passé, ça a très bien fonctionné.
Alors
c'est
faisons-le.
Ce qu'on appelle un déblocage exceptionnel.
Alors faisons-le.
Bah voilà, ça a marché.
Permettre aussi aux Français de débloquer leur plan d'épargne logement, par exemple.
Alors, ça aussi, le plan d'épargne logement, c'est évidemment, comme son nom l'indique, pour acheter un logement. Pourquoi est-ce qu'on n'étendrait pas pendant quelques temps cette possibilité pour acheter de l'ameublement? Vous avez vu que le secteur de l'ameublement est en très grande difficulté. On a vu qu'il y avait un certain nombre d'entreprises bien connues qui étaient en voie de disparaître. Là encore, donnons un coup de fouet au secteur en libérant cette possibilité d'utiliser ces plans d'épargne logement pour acheter de l'ameublement.
Alors, pour favoriser la consommation, pour favoriser la consommation encore, vous préconisez de doubler l'avantage fiscal pour une donation en ligne directe. Donation en ligne directe, c'est-à-dire entre un parent et un enfant.
Là aussi, ce qu'on sait, c'est que quand les parents donnent à leurs enfants ou à leurs petits-enfants, cet argent, il part pas dans l'épargne. Cet argent, on le donne pour un projet bien précis. Aujourd'hui, vous pouvez le faire à la hauteur de 100 000 euros entre parents et enfants et de l'ordre de 30 000 euros avec les petits-enfants. Pourquoi est-ce que là encore, on n'augmenterait pas ces sommes ponctuellement, encore une fois, pour permettre de remettre de l'argent dans la consommation? Ce sont des mesures qui sont simples, c'est de l'argent qui est disponible. Simplement, on a besoin de sortir un peu des schémas qu'on connaît d'une manière habituelle pour redynamiser la consommation.
Alors, en ce qui concerne les entreprises, et notamment les plus fragilisées par la crise, vous dites il faut absolument annuler les cotisations sociales et maintenir le chômage partiel.
Alors on dit effectivement il y a deux catégories d'entreprises. Il y a celles qui sont directement en danger. On a une espèce de pack survie en quelque sorte pour ces entreprises, pour éviter qu'elles disparaissent tout simplement, avec non plus report de charges sociales mais annulation des charges sociales, avec 100% de chômage partiel pris en charge par l'État, et puis franchise fiscale totale jusqu'en toute l'année 2020.
Et ça, jusqu'au 31 décembre.
Exactement. Et ça, ce sont pour les entreprises qui auraient, sur une période du premier semestre 2020 par rapport au premier semestre 2019, perdu plus de 50% de chiffre d'affaires, ce qui est absolument énorme, ou plus de 70% pendant la période de confinement. Ces boîtes-là, elles sont vraiment menacées.
Et pour les autres,
de survie, tout ça.
Et pour les autres?
Alors,
pour celles
les
qui
autres,
sont en partie menacées parce que l'activité est assez réduite.
Alors, celles-là aussi, c'est logique qu'on puisse les aider.
Ils peinent à redémarrer.
Bien sûr. Prenons quelques exemples. Pendant la période de confinement, les services publics ont été au rendez-vous pour certains et d'autres n'étaient pas là. Les assureurs, eux, n'étaient carrément pas au rendez-vous.
Oui. Toujours pas d'ailleurs, les assureurs.
Pas.
C'est hallucinant.
Pourquoi est-ce que
pendant cette période de confinement, on continuerait à payer, par exemple, des primes d'assurance. Donc, nous, ce qu'on dit, ça serait cohérent qu'il y ait une diminution des primes d'assurance de l'ordre de 25% correspondant à peu près à cette période.
Diminution des primes d'assurance de 25%.
Exactement. Ouais. Et de la même façon, tout ce qui est CVAE, CFE, c'est la fiscalité locale qui pèse sur les entreprises, là aussi, ça serait logique qu'il y ait une diminution dans la même proportion.
Transformer aussi le prêt garanti par l'État, le fameux PGE.
Ça, c'est très important. C'est un dispositif qui a parfaitement bien fonctionné, avec un très grand nombre d'entreprises qui ont pu bénéficier de ce prêt garanti par l'État, dans des conditions vraiment intéressantes. Le problème maintenant, c'est qu'évidemment, ce financement, il faut le rembourser. Donc aujourd'hui, ce qui a été prévu, c'est un différé de remboursement, c'est-à-dire pendant un an, il ne se passe rien, puis au bout d'un an, vous commencez à rembourser. Un an, c'est trop court. Donc ce qu'on veut, c'est que pendant deux ans, il ne se passe rien. Et puis ce dont on a besoin, c'est que pour certaines entreprises, on puisse transformer ce PGE, ce qu'on appelle en quasi-fonds propres, pardon, c'est un peu technique. En gros, ça consiste à dire qu'on ne rembourse pas tout de suite et que la puissance publique devient actionnaire sans droit de vote pour un certain nombre d'entreprises pendant une certaine période. Voilà,
l'Allemagne a baissé la TVA sur certains taux de TVA. La France a rejeté l'idée. Vous avez vu ça? Vous êtes favorable à une baisse de la TVA ou pas?
Bien sûr, à condition qu'elle... Mais elle pourrait être ciblée, par exemple. Oui. Pourquoi est-ce que sur toutes les mesures liées à la transition énergétique, il n'y aurait pas une baisse de TVA?
Mais oui.
Pourquoi est-ce que... Voilà, c'est des mesures pratiques comme celle-là dont on a besoin. Pourquoi est-ce que pour le réemploi, par exemple, c'est-à-dire quand vous vous améliorez, vous réparez quelque chose, pourquoi est-ce que là aussi, il n'y aurait pas une diminution ponctuelle de TVA? Voilà, des mesures simples, pragmatiques, efficaces.
C'est un bon sujet, la baisse de la TVA, j'en parlerai, puisque c'est mercredi, la présentation d'un nouveau budget. Nous en parlerons mercredi matin. Merci Jean-Yves Duménil d'être venu nous voir. Il est ici, on trouve tout ça sur le site de la CPME, évidemment. 6h52. Mathieu.
Allez-y, souriez Jean-Jacques, vous êtes filmé.
Ah oui, je souris. Ah bon?
Vous êtes bon, ça vous arrive tous les matins, vous.
Oui,
vous êtes filmé au boulot.
Tous les matins, vous aussi.
Mais vous ne savez peut-être pas que ça peut aussi arriver à ceux qui télétravaillent.
Ah bon?
Le patron peut vous espionner via l'ordinateur. Anthony Morel, c'est déjà demain, dans un instant, sur RMC.
RMC, Bourdin Direct.
Et tout à l'heure, dans le journal de 6h30, Anne-Sophie Balbir nous expliquait que les Français ont été plus nombreux à prendre des petits déjeuners plus longs, plus sains, plus complets pendant le confinement. On a pris les commandes. Alors Serge, c'est un café noisette au boulot pour lui. Marie, un petit déjeuner sain avec du café, du skyr, le yaourt islandais, granola maison et fruits pour Marie. Bandy nous dit que sa femme lui fait des bons gâteaux avec amour et un petit café, rien de plus. Café con leche, café au lait pour Marion avec des tartines. Et alors je ne n'y attendez pas, mais il y a un véritable débat autour du café au lait. Fabrice y attendait, le café au lait, c'est détonnant pour l'estomac, très très mauvais. Les consommateurs de café au lait sont tous candidats à l'appendicite. Pierrot répond, ma tendre maman qui est partie à 90 ans s'est enfilée un grand bol de café au lait toute sa vie. Moi je fais exactement la même chose, 57 ans et tout va bien. Sylvie aussi, c'est du café au lait tous les jours comme son grand-père, comme sa mère. Et vous, qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner? Allez-y, on prend les commandes, l'appli Direct Studio et le Facebook Bourdin Direct.
RMC au 732-16.
75 centimes par envoi plus prix du SMS. RMC.
C'est déjà demain.
Le télétravail avec vous, Anthony Morel. Ça va, Anthony?
Ça va très bien, Jean-Jacques.
Bon, le télétravail. De nombreuses entreprises envisagent de rester durablement au télétravail. Télétravail, il y a du pour et il y a du contre. Hein.
Ça, c'est vrai.
Pour le contre, c'est une vie sociale qui est détériorée et c'est une vie familiale qui risque d'exploser.
Bon, attention. Il y a un témoignage
Non, pas du tout. Moi, je n'ai jamais été en télétravail et je ne saurais jamais.
Oui, mais il y a quand on est soi-même ou quand on a des proches.
Oui,
aussi,
c'est vrai.
Travail, ça vous
Alors, et puis il y a attention à d'autres dérives, la surveillance des salariés.
Ah oui, alors ça, ça vient des États-Unis. Peut-être que ça va s'installer en France, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, vous avez des dizaines et des dizaines de logiciels espions qui permettent à une entreprise, à la direction d'une entreprise, lorsqu'elle les installe sur l'ordinateur des télétravailleurs, eh bien de surveiller leurs moindres faits et gestes à distance. Donc en gros,
insupportable.
On installe ce petit logiciel. Alors je peux vous en citer quelques-uns. Oui. ActiveTrack, Upstaff, InterGuard, qui se présente, c'est leur argument publicitaire, attention, comme une caméra de surveillance pointée sur le salarié. Donc déjà c'est sympa comme esprit, si vous voulez. Et donc une fois que
c'est installé, c'est clair.
Ah bah c'est très clair. Ah non mais ouais, c'est complètement assumé. Et une fois que c'est installé sur votre ordinateur, alors on va pouvoir faire plein de choses. On va pouvoir à distance surveiller votre historique de navigation. l'aviation. On va pouvoir prendre des captures d'écran toutes les 5 minutes et les envoyer à la direction le soir, qui va pouvoir avoir un petit résumé de ce que vous avez fait. Ou même, on va pouvoir avoir un suivi en temps réel de ce que vous faites sur l'ordinateur. Donc en gros, si Mathieu, par exemple, j'installe ce petit logiciel sur ton ordinateur, eh ben, je suis chez moi et je peux regarder ce qui s'y passe comme si j'avais l'œil au-dessus de ton épaule. Je serais peut-être surpris, je ne sais pas.
Mathieu travaille tout le temps, donc ça va.
Non, mais certains outils permettent aussi de mesurer le niveau d'attention des salariés pendant une visioconférence, par
exactement.
Exemple.
Exactement. On a beaucoup parlé de Zoom pendant le confinement, enfin depuis le début de la crise sanitaire. Eh bien, Zoom a dû retirer sous la pression des utilisateurs une fonctionnalité qui s'appelait tracker d'attention. Et en gros, ça permettait, eh bien, quand vous organisez une réunion, de voir qui suit et qui ne suit pas. En gros, s'il y a une personne qui est un peu en train de se balader sur Internet, d'ouvrir d'autres onglets alors que vous êtes en train de faire une présentation PowerPoint, par exemple, eh bien, on le sait et donc on peut, vous réprimander ou en tout cas, on sait que vous bossez pas, quoi. Voilà. Donc là, c'est vraiment, ils l'ont supprimé parce qu'il y a une grosse pression. Enfin,
dites-moi, tout ça, c'est illégal en France, c'est légal ?
Alors, c'est compliqué. Alors, je me suis un peu plongé dans les textes de loi. C'est compliqué parce que les textes, en fait, commencent à dater un petit peu. En France, le télétravail est régi par l'accord national interprofessionnel qui date de 2005 et il dit que le télétravailleur doit être informé des éventuels moyens de surveillance mis en place. Autrement dit, c'est pas illégal à partir du moment où on vous prévient. Alors après, il y a quand même un point, c'est qu'il faut que ces outils soient pertinents.
Le salarié peut dire non.
Alors, c'est ça qui est compliqué.
C'est toute la question.
En fait, la pression est telle.
Qu'il n'osera pas dire non.
Ouais, franchement, c'est compliqué. Il faut que ces outils soient pertinents et proportionnés, c'est ce qu'on nous dit, mais pertinents et proportionnés, c'est une formulation qui peut tout et rien dire à la fois. Il est possible que la CNIL, par exemple, la Commission nationale informatique et liberté, commence à mettre son nez dedans. Parce qu'encore une fois, ça vient des États-Unis, ça explose aux États-Unis. On n'en est pas encore là en France, mais on pourrait y arriver.
Bien, merci Anthony. Nathalie est avec nous, la Valette du Var, dans le Var, donc. Bonjour Nathalie. Oui.
Ça va, Nathalie.
Bonjour, vous regardez la télé.
Ça va, on commence bien la semaine.
Oui. Vous regardez la télé, vous écoutez la radio le matin, Nathalie.
Je regarde la télé.
Vous regardez la télé tous les matins. Bah, salut, Nathalie. Bonjour.
Bonjour.
Ça va, ce matin?
Bon. Bah oui, très bien.
Bon, allez, vous avez gagné votre machine à café, les capsules qui rentrent avec, Nathalie.
Super.
Et j'en suis très, très, très heureux. Merci d'être fidèle et merci d'être avec nous le matin.
Ben, merci à tout le monde.
Et passez une belle journée, Nathalie.
Merci vous aussi.
Merci. Il est 7h. Bonne journée.